Vibrant, vibrante. Le podcast qui brise les tabous de la sexualité.
Je trouve pas de plaisir dans ma sexualité, parce que c'est celle qu'on m'a dictée.
Mettre son doigt dans son vagin,
qu'est-ce qui va faire qu'on va aussi arrêter de se juger entre nous les femmes?
On parle d'énergie sexuelle dans le tantra, et pas forcément de sexualité ou de sexe.
On n'a pas passé 2 mois sous la couette quand même?
Non. Chères auditrices, auditeurs, c'est un vrai plaisir de se retrouver enfin au micro, après plusieurs mois d'absence pour parler à nouveau sexualité. Même si on ne s'est jamais réellement totalement arrêté, Carole, n'est-ce pas ?
Mais tout à fait, parce que après, nous avons été faire des micro-trottoirs.
Après quoi ? Après le confinement, on va quand même reposer oui. Le contexte que tout le monde connaît, bien sûr.
C'est vrai. Nous avons fait des micro-trottoirs sur comment s'était passée la sexualité des grandes contrôleurs pendant le confinement et tout ce qui s'était passé. Donc, c'est là qu'on a pu voir aussi que les gens avaient plus pratiqué la masturbation et qu'ils avaient une vraie envie d'aller de tendresse, d'amour. Et ils sont ressortis à peu près normalement. Et tout ça a permis de se dire que la sexualité était bien présente dans la vie des gens.
Parce que c'est sûr que la période qu'on a traversée et qu'on continue de traverser un peu aujourd'hui a reposé des fondamentaux, comme tu l'as dit, la masturbation, le fantasme aussi. Et puis, nous a aussi invité à repenser le chez-soi, la séduction, l'acceptation de soi-même. C'est des notions, des choses que tu as pu voir ensuite auprès de tes patientes et patients, hein, Carole,
au oui, déconfinement. On a vu aussi, pour faire un petit lien avec sur le porno qui a explosé aussi pendant le confinement, tout ce que ça pouvait faire en bien et en moins bien. Il y a eu ça. Et puis aussi, maintenant, ce qui se passe, c'est que les gens ont toujours besoin d'amour, les gens ont toujours besoin de tendresse, mais se posent des questions dans une tranche d'âge que moi j'ai à peu près entre 30 et... Allez, 50 ans, on va être large, de se dire, as-tu fait le test ? Est-ce que tu es négatif ? Est-ce que tu as côtoyé des gens ? Donc, cette question, elle revient souvent avant de repartir dans des relations plus inconnues, les nouvelles relations, quoi.
Mais aujourd'hui, du coup, on va laisser un peu la Covid de côté. Et puis, on va surtout recevoir... Enfin, on a vraiment le plaisir et l'honneur d'inviter une personnalité qu'on rêvait de recevoir dans Vibrante. Puissance de son travail, par la justesse de l'engagement qu'elle porte. Et bien, aujourd'hui, nous sommes avec Anouchka. Bonjour, Anouchka.
Bonjour.
Comment vas-tu ?
Écoutez, ça va bien. Très contente d'être là et de découvrir votre studio. Enfin, voilà, je suis contente.
Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, tu fais du porno éthique ?
Alors, je fais du porno éthique et féministe. Le porno éthique féministe, c'est un porno qui va être très inclusif. C'est un porno qui va aller à l'encontre des codes et des stéréotypes qui sont généralement véhiculés dans un porno dit classique mainstream. C'est un porno qui ne va pas être phallocentré. C'est un porno qui ne va pas être orienté vers la performance, mais qui va replacer la femme au cœur de l'intrigue en tant que personnage d'une vraie puissance féminine. Donc c'est un porno qui se veut un peu plus authentique parce qu'on va aller chercher quelque chose de sincère, une vraie alchimie qui va se créer. Et c'est un porno aussi qui est éthique et militant de par les valeurs et les messages politiques qu'on dégage dans nos films et qu'on défend. Donc c'est un porno pour moi qui est le porno vraiment du futur et qui est le porno actuel.
Et justement, avant de parler de ce porno du futur, nous, avec Carole, on a l'habitude d'aller poser des questions aux personnes qui viennent à Grand Control. Et donc, on leur a demandé leur vision du porno aujourd'hui.
Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a un côté très libre. C'est l'une des entreprises les plus rentables en France. Enfin, en France, dans le monde même. Et il y a toujours le côté un peu... toujours le côté tabou du « Ah, je me cache !» Mais beaucoup de personnes, voire... quasiment tout le monde a regardé au moins du porno une fois dans sa vie, que ce soit de l'image pornographique ou du film pornographique.
Ma vision du porno, malheureusement aussi, je trouve que c'est extrêmement masculin, c'est extrêmement cliché, brutal, vilain. Franchement, j'ai envie de dire vilain. Même moi, quand j'ai envie de m'exciter, des fois, ça m'arrive de chercher une vidéo sur Internet. J'ai du mal à trouver une vidéo qui me plaise et qui m'excite réellement.
J'aime le porno dans la mesure où quand on est en couple, le partenaire sexuel n'est pas forcément excité tout le temps. On n'a pas forcément tout le temps envie d'avoir un rapport sexuel. Et le porno, c'est une bonne manière de dégager cette pulsion et quelque part de contrebalancer le sentiment d'avoir envie d'aller voir ailleurs puisque notre partenaire sexuel n'a pas forcément envie d'avoir de relations sexuelles.
Après, c'est vrai que ça donne encore trop souvent une image assez réductrice de la femme, par exemple, notamment avec ses corps tout refaits ou épilés, ou je sais pas, qui donne voilà, une certaine image de la sexualité dont vont s'inspirer les jeunes hommes, les jeunes femmes comme modèle, et c'est pas forcément toujours très juste.
Alors moi, je suis pas très très un grand fan de porno, c'est très très rare, de manière générale, c'est plus par les pensées qu'on masturbe. Enfin, par l'imagination en gros, et le porno c'est vraiment quand c'est des trucs un peu plus des fantasmes, je peux pas réaliser forcément avec des gens que je connais, donc je regarde des pornos pour ça, ou alors en couple avec une personne avec qui je pratique une relation sexuelle, on met un porno et on s'amuse à faire un peu pareil ce qui se passe, du coup bah, en gros pour un peu casser ce lien du le porno c'est un truc un peu de fou, genre c'est surjoué à la mort, et du coup en gros c'est pour faire justement la différence entre le porno qui est surjoué où du coup bah, on imite et c'est juste marrant parce qu'on imite ça, et le vrai sexe amoureux qu'il y a à côté.
Le seul problème aujourd'hui avec le porno, je dirais que c'est qu'il est parfois surjoué et qu'il devient une réalité qui n'est pas une réalité, pour être sincère. Et par conséquent, on a des standards qui sont de plus en plus élevés par rapport à nos partenaires sexuels. Et aujourd'hui, on a très peu de facilité finalement à accepter que le sexe soit parfois barbant ou que le partenaire avec qui justement on a une relation soit barbant.
On vient d'entendre beaucoup de discours assez différents, mais plutôt critique et distancié vis-à-vis du porno. Toi, Anouchka, qu'est-ce que cela t'évoque ?
Alors, en effet, on a entendu quand même beaucoup de choses, donc c'est un peu difficile de répondre à tout. De base, je dirais que c'est compliqué d'essentialiser le porno. Il y a vraiment plein de choses dans le porno et plein de mouvements différents. Que ce soit le mainstream ou dans le mainstream, il y a des choses bien et des choses moins bien. Tout n'est pas forcément à jeter. Dans le porno alternatif, le porno queer, le porno féministe, il y a d'autres choses. Il y a une dame qui disait que c'était dégradant au niveau de l'image de la femme, qu'on ne voyait pas des choses réelles par rapport au corps. Et justement, le porno féministe est là pour casser un peu tous ces codes. On va vraiment s'éloigner des standards de beauté du porno mainstream pour aller vers une diversité de corps, une diversité au niveau de la pilosité. On va mettre des femmes racisées qui ne vont pas être forcément hyper sexualisées comme on peut le voir dans d'autres films. Donc le porno, c'est tout un univers dans lequel il y a vraiment de tout. Le problème qu'il y a pour moi, c'est que le porno féministe alternatif, queer, éthique, est pas suffisamment médiatisé. Et donc, la majorité des gens, de par le stigma social qui nous pousse à toujours aller vite, etc., vont aller sur les grosses plateformes, taper quelque chose et s'arrêter sur la première vidéo qu'ils trouvent. Alors qu'au final, si on cherche un peu plus loin, on peut trouver des choses complètement différentes et des choses qui vont être tournées vers une vraie authenticité. Alors, attention, ce n'est pas non plus du réel, parce que encore une fois, même le porno féministe et le porno alternatif, de manière générale, ça reste un film. Hein. Donc, il y a un montage, il y a de la lumière, les acteurs, les actrices sont payés pour la prestation. C'est plus authentique parce qu'on va créer une vraie alchimie et que les conditions aussi de production et de tournage vont aller dans ce sens-là. Donc, c'est aussi en ça qu'on trouve l'éthique dans le porno que je fais. Et par rapport à ce qu'une personne disait, que ça influe en mal la sexualité des jeunes, moi je dirais que le porno n'a pas pour but d'être éducatif. Encore une fois, ce sont des films. Il faut les prendre comme tels, comme des films. Quand on va regarder Fast and Furious, on ne va pas se baser sur ça pour passer son permis. Donc,
c'est clair.
Donc à un moment donné, il faut un peu relativiser tout ça. Il y a des choses qui sont faites dans le porno à but éducatif, des choses très spécifiques qui vont être des tutos, etc. Mais les films en tant que tels restent des films.
Et toi, Carole, tu rejoins plutôt Anouchka là-dessus. Comment tu abordes cette notion du porno dans ton cabinet, avec les personnes que tu rencontres ?
Le porno, ça fait partie d'un support visuel que les gens ont besoin pour effectivement s'aider à se masturber, avoir des fantasmes, en précisant toujours que effectivement, ce n'est pas la vraie vie, c'est un film, ce n'est pas la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe, que on peut en regarder, mais attention à pas devenir addict à toutes ces choses-là. Et puis, malheureusement, beaucoup de jeunes passent par le porno pour s'éduquer. Donc dans la relation après, ils veulent refaire ce qu'ils ont déjà vu. Juste que c'est pas possible. Donc il y a tout un apprentissage à refaire par rapport à ça. Et c'est sûr que tout le porno éthique, on le trouve moins facilement. Voilà, il faut demander aux gens, il faut que les gens fassent un effort d'aller le chercher.
Complètement.
Et c'est ça qui est plus compliqué parce qu'au moins là, ils voient des acteurs qui ressemblent à la vraie vie, quoi.
Oui, c'est ça. Des acteurs, des actrices qui sont semblables aux gens qu'on croise dans la rue, qui ne vont pas être aussi, même dans le sexe, orientés vers une performance avec des positions abracadabrantes, oui. Qui vont avoir une scène de sexe comme on peut l'avoir chez soi avec son partenaire. Et encore une fois, ça peut aussi, enfin, la chose que j'entends beaucoup par rapport au porno féministe et éthique, c'est que c'est quelque chose fait par des femmes, pour des femmes, qui est doux, sensuel, etc. Ça, c'est quelque chose qui m'énerve absolument. Parce que le porno féministe peut être aussi beaucoup plus bestial. On peut aller vers des choses beaucoup plus SM à partir du moment où il y a cette notion de consentement. Et ça, c'est quelque chose de primordial. Et c'est aussi un reproche qu'on peut faire à du gonzo, alors encore une fois pas tout, hein, parce qu'on va pas mettre tout le monde dans le même sac, mais c'est cette notion de consentement qui prime. À partir du moment où il y a le consentement, où les gens se sentent bien dans ce qu'ils font avec le partenaire avec lequel ils sont, on peut aller très loin dans le sexe, et que ce soit dans le porno féministe ou autre.
Mais justement, nous, c'est, alors on a vu plusieurs de tes films, on a vu notamment celui sur le BDSM, et moi ce qui m'a frappé, c'est que pour une fois... la femme elle était dans une position de dominatrice, mais il y avait tellement de bienveillance, de consentement. Et justement, nous, c'est un sujet qu'on a beaucoup abordé, le BDSM dans ces podcasts, parce qu'à chaque fois, c'est bah oui, mais on ne peut pas être féministe et aimer le BDSM, alors que ça n'a rien à voir. C'est deux personnes qui choisissent d'être dans ce jeu-là.
Bah exactement, c'est deux personnes qui choisissent d'être dans ce jeu-là, qui ont créé un lien entre elles, qui s'amusent, et c'est comme dire on ne peut pas être féministe et aimer la levrette. Enfin, c'est complètement con.
Ça n'a rien à voir.
À un moment donné, si on...
Je te remercie pour dire tout ça, parce que... Non, mais c'est la manière dont tu filmes une fellation. Combien de fois on a entendu des femmes dire « je ne fais pas la fellation parce que je suis à genoux ». Et du coup, je suis infirme. Mais non, ça n'a rien à voir, parce que là, on est dans la sexualité, on est dans du plaisir.
Consenti.
Et on a dans une communication avec son partenaire. Et oui, tu peux le redire et redire ça.
Ah non, mais je suis d'accord. Et c'est le dialogue qui prime. À partir du moment où on est d'accord avec ce qu'on fait, qu'on aime ce qu'on fait, enfin, il n'y a pas de position dégradante. Hein. C'est un imaginaire collectif.
À bannir.
À bannir complètement.
Et justement, alors, si on parle de cet imaginaire collectif à bannir, quels sont pour toi les clichés toxiques qu'on retrouve aujourd'hui dans le porno, et ces clichés-là que toi, tu essayes de déconstruire à travers ton travail?
Alors, il y en a énormément, donc ça va être compliqué de venir.
Ou en tout cas, ceux qui te marquent le plus, quoi.
Moi, je peux t'en aiguiller. La taille du sexe. Je peux t'en donner quelques-uns que j'ai au cabinet.
Oui, bah, le fait déjà, oui, que ce soit très phallocentré, ça, je trouve que c'est toxique, parce que on part du principe que la relation sexuelle commence et se termine avec la pénétration. Et encore une fois, c'est complètement faux, parce que là, on ne prend pas en compte le plaisir féminin. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment pour moi assez toxique dans le porno dit classique. C'est qu'on va commencer, enfin, il va y avoir vraiment des codes. Hein, on va commencer par la fellation, pénétration et éjaculation faciale, etc. Enfin,
ouais.
Voilà.
Et la totale.
Voilà.
Le classique. On a changé plusieurs fois de position.
C'est ça. Oui. Et du coup, je trouve que, enfin voilà, encore une fois, ça renvoie une mauvaise image du sexe en tant que tel, parce que dans nos vies de tous les jours, ça se passe pas comme ça. Enfin, on n'a pas forcément envie de ça, nous les femmes, quand on n'a pas forcément envie tout le temps de se faire pénétrer.
Mais les hommes n'ont pas toujours envie de ça non plus. C'est ça qu'il faut qu'on se mette dans la tête, c'est que les hommes n'ont pas toujours envie de pénétrer.
Non.
Ou ils n'ont pas toujours envie que ça aille vite. Les hommes ont besoin de tendresse.
Aussi. Et il y a d'ailleurs un très bon livre de Martin Page qui dit que...
Au-delà de la pénétration. Au-delà de,
c'est ça, que si, alors, que c'est, si la société est orientée vers le plaisir, les femmes seraient nettement moins pénétrées, les hommes beaucoup plus. Donc c'est assez clair. Quand on est, c'est cet imaginaire-là collectif qui dit que le sexe, c'est la pénétration, il faut avoir un gros phallus, il faut être hyper bien bâti. Pour les nanas, il faut être bien foutu, avoir des seins parfaits, surtout pas de cellulite, pas de vergeture, enfin... Tout ça, c'est complètement irréel, fictif, parce que la vie, c'est pas ça. La vie, c'est la diversité. La vie, c'est
les vergetures.
C'est les vergetures.
La poitrine qui tombe à un certain âge.
C'est ça, c'est la pilosité. Enfin, je pense qu'il faut clairement dire que. On a le droit de ne pas s'épiler, on a le droit d'avoir des vergetures, on a le droit de tout ça, on a le droit de pas vouloir être pénétré, on a le droit aussi de pas vouloir de sexe. Hein. Enfin, c'est à un moment donné, il faut aussi arrêter ces injonctions où il faut tout le temps baiser. Il y a des moments où on peut se dire aussi, là j'ai envie de faire une pause. J'ai envie de faire une pause pour moi, j'ai envie de faire une pause pour toi, j'ai envie de faire une pause pour me recentrer sur moi et me masturber.
C'est... Et en plus, ce que je me disais quand je regardais tes films, c'est que si... alors moi j'ai 22 ans, mais si j'avais pu voir... Quand j'ai commencé à regarder du porno, des films comme ça, mais comment est-ce qu'en fait ça aurait changé mon rapport aussi à la sexualité ? Parce qu'en fait, on a besoin d'imaginaire pour se nourrir aussi et pour voir son monde, pour mieux regarder son monde. Et c'est vrai, quand on voit, et notamment, comme tu dis, ces femmes qui ont des corps qui sont tous différents, en fait, et c'est ça qui est important, quand on voit deux femmes qui font l'amour et qui n'ont pas forcément besoin que l'homme arrive avec son pénis, parce que, en fait, finalement, ce qu'elles veulent, c'est ça, c'est tellement agréable, en fait, d'entendre des vraies histoires, mais c'est un travail artistique aussi que tu mènes. C'est un film. Et voilà, moi, c'est quelque chose qui m'a marqué, quoi.
Ça nous réconcilie avec nous-mêmes, en fait, je trouve.
On se réapproprie
complètement.
Et puis encore, t'es jeune, mais pour toute l'autre génération, ma génération, ouais. où on a été baigné là-dedans, le complexe. Combien de femmes ne s'aiment pas leur corps parce qu'elles sont comparées quand on regarde
clairement. Voilà. Mais encore une fois, il n'y a pas que le porno pour ça, hein, parce qu'il y a aussi toute la société, la publicité.
Aussi, on est d'accord, mais comme là, on est dans la sexualité, dans le porno, il y a aussi ça, quand on voit ça, on se dit, mais je vais jamais y arriver, quoi. Puis tout ce qui est performance, quoi. Moi, j'ai dans mon cabinet plein de gens qui me disent je suis éjaculeur prématuré. Ah oui, combien de temps? Je tiens pas 45 minutes. Là, tout va bien jusque-là. Même 20 minutes, tout va bien.
Je le rassure, il y a beaucoup d'acteurs porno qui ne tiennent pas 45 minutes non plus. Hein,
c'est... Mais ça, on le dit jamais. Tu
oui,
vois.
On le dit jamais.
Et c'est quand moi, je commence à me dire, t'es sûr? Ouais, je suis sûre.
Et justement, toi, Anouchka, alors comment est-ce que cette idée-là... est-elle venue? Parce que, en fait, la base, c'est plutôt ce genre de porno qu'on va retrouver sur des plateformes. Comment est-ce que tu en es arrivée à ce chemin-là? Est-ce que c'est au gré de rencontres, comme Ovidie notamment? Comment est-ce que tu en es venue ici, à faire ce porno éthique?
Alors, clairement, c'est au gré de rencontres. À la base, moi, j'ai fait une école de cinéma, donc je suis très orientée artistique. Ça se sent un peu dans mes films.
Bien sûr. Bien sûr.
Et du coup, le hasard de la vie a fait que j'ai rencontré Ovidie, qui a une place qui se libérait dans une télévision à but éducatif sexuel, justement, sur Paris. Et j'ai commencé à travailler avec elle. Et donc, j'ai fait différentes choses pour elle au départ. Et j'ai ensuite participé à la production de ces longs métrages pour Canal+. Et c'est là clairement que j'ai découvert les coulisses et le porno féministe et éthique. C'est par le biais d'Ovidie que je considère clairement comme ma marraine, hein, parce que c'est elle qui m'a mis le pied à l'étrier, plus ou moins. Et j'ai eu envie de faire mes propres films en partageant ces valeurs-là avec des films différents, mais des valeurs communes. Et je me suis dit, mais mince, enfin, je connaissais pas du tout, enfin, j'étais complètement, je suis passée à côté de quelque chose. Enfin, j'ai redécouvert une excitation que j'avais perdue dans l'imagerie, en fait, parce que le porno mainstream et pas quelque chose qui, moi, m'excite particulièrement. Et à cette période-là, j'avais des gros problèmes aussi avec mon corps. Enfin, c'est d'avoir découvert le travail d'Ovidie, ses films, ses valeurs. Enfin, j'ai ressenti de nouveau de l'excitation et de nouveau de l'envie. Et là, je me suis dit, mais mince, c'est... si je ressens ça, c'est... d'autres peuvent le ressentir aussi. Et je peux aussi peut-être partager mes fantasmes avec d'autres personnes. Et ça peut aussi être cathartique. Et du coup, bah, je me suis lancée. Je suis allée sur Berlin. J'ai rencontré toute la communauté queer, alternative. Enfin, voilà, j'ai fait pas mal de rencontres. J'ai vu comment se passaient les tournages aussi là-bas. Et en rentrant, je me suis dit, bah, on était en quoi, 2014-2015. Je me suis dit, je vais lancer ma plateforme et commencer à faire mes courts-métrages. Et ensuite, étant donné que je connaissais un peu Canal+, bah, je leur ai proposé un script pour mon premier long-métrage Gloria, qui parlait justement de l'injonction d'avoir un orgasme pour les femmes et de la difficulté pour certaines femmes à atteindre l'orgasme. Et puis après, bah voilà, ça a été un tourbillon, ça s'est enchaîné. Et puis, ouais.
Dans ton travail, nous, ce qu'on a beaucoup remarqué avec Carole, c'est vraiment, enfin, notamment, on va en parler du dernier que tu as sorti, qui s'appelle Vivante, qui est sorti le 15 août. Il y a énormément de grâce dans ce que tu fais. On a de la lumière, on a de la danse, et c'est comme ça qu'on est amené au fur et à mesure à rencontrer ces personnes-là qui vont se donner du plaisir. Et ça, c'est quelque chose de... c'est une entrée dans le film qui est particulière, quoi. Comme moi, en tout cas, j'avais jamais vu, qui était nouvelle. Je sais pas toi, Carole, là-dessus. Ouais.
Mais maintenant que je t'écoute, tu vois, je vois l'envie que tu as, l'envie qui est la vie, hein. Et l'énergie sexuelle, c'est de la vie.
C'est ça.
Et exactement, c'est ce qu'on voit dans tes films, dans Vivante. On le voit très bien, effectivement, par la danse et tout ce qui s'amène, qui amène à la beauté du film que tu as fait, parce que moi, ce film, il m'a énormément émue.
Peut-être on peut demander à Anouchka de dire à nos auditeurs un peu le petit synopsis,
le pitch
de ton film, parce que là, on parle, mais
ouais.
Voilà.
Alors, pour faire, parce que j'ai tendance un petit peu à partir dans tous les sens.
Mais c'est très bien, dis-nous.
pour moi, c'est une histoire d'amour et de reconstruction. Donc, mon personnage principal, Louisa, qui sort d'une relation hétérosexuelle, qui est passionnée de danse, va rencontrer Charlotte, une photographe très libre, très créative. Les deux femmes vont tomber amoureuses, vont vivre une belle histoire. Louisa va s'épanouir complètement dans cette nouvelle sexualité et atteindre un peu son climax de bonheur. Et à ce moment-là, elle va avoir un accident. Cet accident-là va remettre en question sa mobilité. Ça va être compliqué pour elle de se relever de cet accident. Et Charlotte va faire appel à une accompagnante sexuelle qu'on aura vue au début du film, qui est Emma. Et Emma, par sa douceur, par son empathie, par sa tendresse, va amener Louisa à prendre conscience que son corps n'est pas que souffrance, mais qu'il peut toujours être source de plaisir, et va réussir à réconcilier les deux femmes.
On a déjà j'ai des frissons en me rappelant encore les scènes. Comment est-ce que tu en es venue à... Enfin, c'est un sujet qui est absolument tabou, le sujet de l'assistana sexuelle, le sujet aussi du handicap. Moi, j'avais jamais vu ça. Après, ça, peut-être qu'il y a des choses comme ça qui ont déjà existé. Moi, j'ai jamais vu ça dans le porno. Comment t'en es venue à...
C'est ça qui est bien.
Comment t'en es venue à créer cette histoire qui... C'est une histoire... Qui touche, enfin qui je divague un peu, mais enfin comment t'en es venue là,
parce que je crois que moi je connais une sexologue sur Lyon qui elle-même est un handicap, qui s'occupe de ça et qui essaye de se battre sur justement l'assistanat sexuel. C'est tellement compliqué que l'avoir mis là dans le porno, où je te disais en off tout à l'heure que mais pourquoi il est dans cette catégorie de porno. Parce que je pense qu'il faudrait que ça, tout le monde puisse le voir.
Oui.
Parce qu'effectivement, c'est un sujet, l'handicap, qui est important. Et les gens qui ont un handicap ont une sexualité.
Clairement.
On l'ignore tout le temps, on la met tout le temps de côté. Et donc, c'est double peine, triple peine en fonction de... Et puis on ne forme pas des hommes ou des femmes pour devenir assistants sexuels. Et on devrait.
Ça se fait un peu dans différentes associations comme la PASSE, etc. Mais ça reste assez marginal, notamment d'avoir des clientes. Les assistantes sexuelles vont plus avoir des clients que des clientes. Donc pourquoi est-ce que j'ai voulu mettre ce film-là, enfin ce sujet-là dans un porno canal? Parce que déjà c'est tellement tabou que c'était important pour moi d'en parler dans un porno. C'est un pied de nez aussi, enfin clairement. parce que c'est un film puissant, parce que enfin pour moi le message de ce film là il est pas triste, il est pas mon personnage ne va pas être en dépression, enfin dans une forme de tristesse tout du long. Pour moi c'est la puissance féminine, comment on se relève d'une épreuve, et avec nous les femmes quoi, et c'est quelque chose d'hyper, enfin voilà, très important pour moi à souligner. Et aussi, le handicap est quelque chose qui me touche personnellement dans ma vie. Alors, c'est ce que j'essaye d'expliquer dans ce film-là, qu'il y a des handicaps qui sont visibles et des handicaps qui ne sont pas
invisibles, bien sûr. Voilà.
Et que l'accompagnement sexuel, qui est du travail du sexe, donc je tiens vraiment à le préciser, parce que c'est quelque chose d'important pour moi de dire que ce n'est pas quelque chose de noble parce que c'est pour les personnes en situation de handicap. Non, c'est du travail du sexe, et que ce travail du sexe-là peut aussi aider des gens qui ont des traumas, qui ont des maladies invisibles, etc. Moi, ça me touche parce que j'ai une maladie chronique depuis 10 ans et qu'au début de cette maladie-là, ça a été très compliqué. Les douleurs, enfin, tout a été très compliqué. Donc, les douleurs ont fait que j'avais plus du tout de libido, donc de vie sexuelle, et que je pensais que tout était terminé pour moi. Clairement, donc, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Quand j'ai rencontré Ovidie, je commençais seulement à remonter la pente, et c'est en découvrant ce porno-là que je me suis dit, mince, ça fonctionne encore. Ouais. J'ai encore envie. Donc pour moi c'était important de parler de ça, de parler de la force, de la puissance, et que le handicap n'est pas une fatalité, que en effet, comme tu disais Carole, que les personnes en situation de handicap ont une vie sexuelle et qu'il faut arrêter de penser que ce sont des gens asexués, et enfin voilà.
Et ça s'entend dans ton film, enfin le message s'entend clairement. Enfin, je n'étais pas au courant de ce que tu disais, mais il y a une vérité, et moi qui ne suis pas en tout cas en situation de handicap, c'est quelque chose qui m'a touchée, qui m'a marquée. Et donc je pense que c'est là, oui Carole, quand tu dis ce film là il devrait être vu par tout le monde, parce que en fait c'est ça, c'est la puissance en fait du corps, du désir, de l'amour de soi, c'est
et puis de la pouvoir avoir de l'amour avec quelqu'un d'autre, de dans le partage, ouais. Même si c'est pas comme la norme, mais qui les sentiments, et puis voir comment voilà on se bat pour cet amour. Et après il y a la sexualité,
c'est ça,
et la sexualité c'est quand même aussi la base dans un couple, qu'il soit homo, hétéro, peu importe, il y a cette base d'amour et de tendresse qui est là. Et là, c'était plus possible de retrouver. Et grâce à l'assistante sexuelle, on est passé à ça. On a reconnecté ça.
Ouais, grâce à la. Et j'avais vraiment envie de parler de ce métier, qui est un métier fort et dont on ne parle pas suffisamment, et qui commence à revenir,
ouais,
hein, tout doucement,
à revenir
dans le débat public,
ouais. Ouais,
complètement.
Et justement, comment est-ce que tu réalises tes films, vu que la manière que tu as de voir justement la sexualité, de la pensée est différente du porno mainstream? Comment est-ce que ça se passe dans la réalisation en fait?
Ah ben, c'est très long.
C'est ça, ouais.
C'est 9-10 mois de boulot. Ouais. Hein, c'est énorme. À chaque fois un accouchement, quoi, clairement. Et ça prend énormément de place dans ma vie, dans mon couple. C'est pas forcément toujours évident. Et il y a beaucoup de travail de recherche, parce que notamment pour ce film-là, comme on l'a mentionné, il y a toute la question de l'accompagnement sexuel. Et j'avais envie de me baser sur des choses réelles. Et donc, j'ai fait beaucoup de témoignages.
Oui,
j'ai
interviewé
d'entretiens avec des assistantes sexuelles, notamment Cybelle L'Espérance, qui est assistante sexuelle, qui a un petit rôle dans le film, avec des personnes en situation de handicap comme Marie-Léa Kinka, qui a aussi un petit rôle dans le film. Donc Enfin voilà, il y a eu beaucoup d'entretiens, j'ai fait pas mal de recherches parce que je voulais tomber juste aussi, je voulais pas blesser, je voulais être le plus juste possible. Et ensuite, j'ai clairement pris le parti de dire que c'est du travail du sexe. Hein. J'ai clairement pris le parti du validisme, etc. Donc voilà, c'est tout un ensemble de travail de recherche. Ensuite, il y a l'écriture. Ensuite, il y a toute la préparation. Et il faut préciser qu'on est sur des budgets qui sont complètement ridicules, à savoir ouais. entre 20 et 25 000 euros pour ce film-là. Donc,
d'accord. Par rapport au porno mainstream, ça n'a...
Non,
par rapport à la durée, en tout cas, je suppose après que les pornos dits mainstream sont des délais beaucoup plus courts de tournage.
Complètement.
Et donc, du coup, ça change la
donne. Ça change la rentabilité. Ouais. Moi, clairement, je ne suis pas payée sur ce film. Il y a plein de gens qui m'ont aidée qui ne sont pas payés. C'est compliqué parce que j'ai des exigences assez élevées. En même temps, je ne sais pas travailler autrement. voilà, on a travaillé sur une durée de 8 jours. Donc, c'est 8 jours de tournage plein. On essaye aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les conditions de tournage qui font aussi un porno éthique. Donc, c'est ne pas faire des journées de 15 heures et ouais. épuiser tout le monde et continuer comme ça sur plusieurs jours. Il faut respecter le temps de travail, le temps de repos de chacun. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. On a fait des répétitions avant avec les trois actrices principales du film. Donc, on est resté 3 jours sur Paris à répéter, à créer aussi une alchimie, une cohésion d'équipe. C'est important aussi ça pour un tournage parce que c'est là qu'on a vraiment envie de donner le meilleur de soi. C'est quand ça se passe bien et qu'on sent qu'on est dans un cocon de bienveillance. Donc voilà, forcément c'est tout ça, c'est du travail, c'est de l'investissement personnel, émotionnel, donc forcément c'est du temps. Donc qui dit du temps dit aussi de l'argent dans la société dans laquelle nous sommes. Et puis ensuite il y a tout le travail de post-prod que je fais aussi, donc c'est vrai, c'est que énorme. c'est assez épuisant. Mais quand vous me dites que le film vous a ému, vous a plu, oui. C'est une récompense hyper satisfaisante pour moi.
Je peux même te dire que je n'ai pleuré tellement j'étais émue sur ce film, parce que ce que tu décris là, on le ressent dans le film, que c'est des femmes qui se connaissent, s'apprécient, de la manière dont ça a été filmé, quand elles se caressent, quand elles se lèchent, cet homme qui a du mal à avoir une érection, tout ça, ça sent que c'est...
Et que c'est pas fake.
Voilà, c'est du... dans la vraie vie, ce qu'on peut rencontrer, on peut tous rencontrer un jour un homme qui a une panne érectile, et alors ? On va continuer quand même ce moment de tendresse.
C'est ça.
Et ça se sent vraiment dans tous les films. Donc ça, c'est le film Vivante, mais dans tous les films porno qu'on a regardés, on le ressent que tout est présent, quoi.
C'est ça, oui. Oui, il y a vraiment... C'est une démarche entière, quoi. Et pour moi, c'est beaucoup d'humain. Je m'investis énormément émotionnellement avec les gens avec qui je travaille. Mon équipe est toujours la même depuis le début. Les actrices, acteurs, c'est souvent des gens que je connais, avec qui j'ai envie de travailler. Quand je ne connais pas, on prend le temps de se rencontrer, de manger ensemble. Il y a un vrai esprit dans tout ça. Parfois, ça fait même un peu colonie de vacances. On mange tous ensemble le soir. C'est pas une journée de travail, après c'est fini. Ouais. Chacun rentre dans sa chambre d'hôtel, on se revoit le lendemain pour la deuxième journée. Moi, c'est pas comme ça que je considère le travail. Le porno, c'est quelque chose d'intimiste. Et si on veut faire de l'intimiste, de la bienveillance et dans le consentement, tout ce qu'on disait tout à l'heure, il faut s'investir aussi. Et il faut être là, à l'écoute et présente, et sentir qu'on est quelqu'un vers qui on peut venir et qu'il n'y a pas de stress par rapport à tout ça.
Est-ce que tu peux du coup dire à nos auditrices, auditeurs, où est-ce qu'on peut retrouver tes films peut-être sur ton site internet ?
Alors mes courts-métrages sont sur le site anouchkamovies.com et il y a Blowé aussi, mon précédent long-métrage. Voilà, le Vivante est toujours disponible en replay sur Canal+. Ça sera aussi le premier film en audio description.
Waouh.
Premier film porno.
Bravo. Ouais.
Merci. Ouais, je suis très fière. C'est Canal.
Tu peux, là.
Tu peux être plus que fière.
Donc, il sera rediffusé au mois de novembre pendant la semaine du handicap. Et voilà. Et puis, il est en compétition au Porn Film Festival 2020, où je serai au mois d'octobre pour le présenter.
Et vivement que tout le monde le voit.
Oui,
vivement.
Allez le voir.
Merci vraiment, Anouchka, d'être venue au micro de Vibrante. On est ravis. C'était un bonheur d'échanger avec toi et de comprendre et d'écouter ton travail. On espère que ça aura donné envie aux auditrices, auditeurs d'aller voir ce que tu fais, d'aller comprendre ce qu'est le porno éthique. Et puis à bientôt. Merci.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
C'était Vibrant, Vibrante, un podcast de Ground Control en partenariat avec le magazine Cosette.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.